RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur l'émission de philosophie Les Neveux de René, chemin de pensée. Alors, cela tombe bien qu'on s'appelle Les Neveux de René, puisque nous abordons la pensée de René Descartes. Et après avoir examiné l'héritage philosophique de Socrate, à travers l'Apologie de Socrate, qui est un texte écrit par Platon, nous proposons aux auditeurs d'aborder la pensée de René Descartes. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Alors, vous êtes en compagnie de Nazim Fattès, Sylvain Contasso-Vivier et Nicolas Lemoine. Nicolas, cette phrase, tu l'as déjà entendue ?
Oui.
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ?
Bah oui.
Ah bon ? Ça vient d'où ?
Bah de Descartes.
Ah, de Descartes. D'accord. Mais encore, tu peux nous dire un peu plus à ce sujet.
Ah oui, c'est le début du discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences.
Bon. Alors, donc nous allons aborder cet ouvrage qui est un moment capital de l'histoire de la philosophie. Et si aujourd'hui nous avons choisi d'appeler notre émission Neveux de René, peut-être que... Il y a des raisons profondes qu'on va aborder petit à petit. Je dois dire qu'il y a quelques jours, par exemple, j'étais en déplacement professionnel au Maroc. Et il se trouve que l'avion qui nous a ramenés en France est passé exactement au large du détroit de Gibraltar. Et il m'a été donné de voir d'un coup ces deux continents qui se faisaient face... J'étais à peut-être 12 000 mètres de hauteur, et je voyais l'Europe et l'Afrique qui se faisaient face. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toutes les personnes qui, au moment même où je voyageais à une vitesse prodigieuse et confortablement assis dans mon avion, étaient en train d'essayer de traverser clandestinement, au péril de leur vie,
le détroit,
et essayer de passer en Europe. Et il me semble que revenir à Descartes est un passage essentiel pour penser l'identité de l'Europe et penser l'espèce de grand magma dans lequel le monde est pris. Et ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, nous tâchions de dégager comment quelque chose qui peut sembler abstrait, métaphysique, pour employer le terme, peut éclairer notre époque. Voilà. Mmh. Alors, Sylvain, je te propose peut-être que tu relises le titre et que tu lises peut-être une phrase ou deux du prologue, celui qui va annoncer
effectivement,
le plan de l'œuvre.
Il annonce le plan, en fait, hein, au début. Donc, le titre, c'est « Discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences ». Si ce discours semble trop long pour être tout lu en une fois, on le pourra distinguer en six parties. Et en la première, on trouvera diverses considérations touchant les sciences. En la seconde, les principales règles de la méthode que l'auteur a cherchées. En la trois, quelques-unes de celles de la morale qu'il a tirées de cette méthode. En la quatre, les raisons par lesquelles il prouve l'existence de Dieu et de l'âme humaine, qui sont les fondements de sa métaphysique. En la cinq, l'ordre des questions de physique qu'il a cherché, et particulièrement l'explication du mouvement du cœur et de quelques autres difficultés qui appartiennent à la médecine, puis aussi la différence qui est entre notre âme et celle des bêtes.
Voilà. Merci.
L'essentiel.
Voilà l'essentiel. Alors.
Donc l'annonce du programme est assez ambitieuse, hein, parce que là on voit qu'il ne se propose pas moins que de démontrer l'existence de Dieu et de décrire finalement l'âme humaine.
Et de refonder la morale.
Alors, essayons de procéder avec,
avec méthode.
Alors, le titre de l'œuvre, donc on voit que c'est écrit « Discours de la méthode ». Alors, comment comprendre « discours » Comment comprendre ce mot « discours » Comment vous l'entendez, le mot « discours » déjà?
Ben, comme un texte qui explique, en fait, qui présente, au final, sa méthode, vraiment un texte de présentation.
Voilà. Alors, il faut évidemment ne pas comprendre « discours » comme on dit dans la vie de tous les jours, il fait des beaux discours. Hein.
Non, d'accord. C'est clair.
C'est un discours, c'est le mot qui va capturer ce dont on avait parlé à propos des Grecs, du logos. Mmh. C'est-à-dire, un discours, c'est rassembler toutes les connaissances, peut-être, d'un temps, et les structurer pour les présenter. D'accord ? Alors, méthode, c'est un mot qui parle quelle langue ?
Français ?
Ah non. Quand tu dis méthode, Nicolas, tu parles pas français, tu parles ?
Je dirais grec. Mais...
Grec.
Ah, c'est vrai.
Grec. Alors, méthode est un mot qui parle grec. Donc, vous connaissez l'étymologie du mot? Non.
Non plus.
Méthode. Alors, méthode, alors on entend deux choses. On entend méta et hodos. D'accord? Donc, méta, c'est à côté de.
Après.
C'est ce qui donne.
Ou avec.
Avec. Et hodos, c'est le chemin. Donc, il va être question de chemin. Mmh. Et où est-ce que vous voyez le chemin juste après? Donc, discours de la méthode pour bien
conduire sa raison.
Donc, vous voyez, le mot chemin apparaît dans méthode et il apparaît dans conduire. D'accord? Puisque conduire, c'est le ducere latin qui dit, en fait, s'acheminer, être précisément en chemin. Hein. Donc, conduire, séduire... Induire, tout ça, c'est des mots qui sont apparentés, d'accord? Donc, sa raison, eh bien, la raison, c'est tout l'objet, évidemment, de la philosophie, et plus particulièrement de la philosophie du XVIIe siècle, on y est en plein, et chercher la vérité dans les sciences. Donc, la vérité, c'est aussi l'objet de la philosophie. Hein, on a vu que Socrate, c'est celui qui cherche la vérité et qui soigne son âme en cherchant. Et on arrive à ce mot « les sciences ». Alors, nous sommes tous trois, nous ne sommes pas des professionnels de la philosophie, mais nous sommes ce qu'on appelle des scientifiques, donc des professionnels de la science. Comment vous entendez, qu'est-ce que vous comprenez dans le mot science, ici? Quel sens vous lui attribuez?
Alors ici, on pourrait penser que c'est... Enfin, on pourrait plutôt voir la science comme quelque chose de général qui englobe en fait la connaissance. Mmh. Je pense que c'est plutôt dans ce contexte-là qu'il faut voir les sciences ici. Mmh.
Tu es d'accord, Nicolas?
Oui.
Alors, à quoi ça vous fait penser, ce science?
Oscio latin?
Oui.
Ouais, c'est le savoir, effectivement.
Ouais. Mais il n'y a pas un proverbe, quelque chose qui vient de science
qui vient du XVIe siècle?
Ouais.
Peut-être.
Oui, juste un peu.
Oui. Mais pourquoi faire?
J'ai pas compris.
Qu'est-ce que tu veux...
Bon, alors je pensais à « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».
J'avais bien compris.
Oui, mais si tu le dis pas, on va pas le comprendre.
C'est vrai.
Parce qu'on n'est pas dans ta tête. Donc, quand Rabelais dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », je pense qu'il est justement dans ce que tu disais, Sylvain, c'est qu'il est dans cette approche de la science qui est extrêmement générale, qui récolte toutes les branches du savoir. Mmh. D'accord ? Aujourd'hui, à la fac de sciences, on a maths, physique, chimie, biologie, géologie...
Santé, et ainsi de suite. Éventuellement.
Santé, éventuellement.
Informatique, mathématiques.
Voilà. Pas à cette époque-là. Science, c'est vraiment tout type de savoir, y compris même, pourquoi pas, la théologie, le droit, et ainsi de suite. Donc, attention à... Quand on est chez Descartes, le tournant des sciences n'a pas encore eu lieu. Enfin, ce qu'on appelle science moderne n'a pas encore lieu. Précisément, il a eu lieu avec Descartes. Mais donc, ce mot science n'a pas d'acception, c'est-à-dire de la signification qu'on lui attribue de nos jours. Ben, et ça, c'est très important.
À savoir de science positive.
De science positive, exactement. Alors, il faudra qu'on revienne sur ce mot positif, l'expliquer. Mais on peut dire science positive signifie science qui vise à la certitude. Voilà, exactement. Alors, effectivement, les six parties, donc, tu disais, Sylvain, c'est les principales règles de la méthode,
oui,
la morale, l'existence de Dieu et de l'âme humaine, les questions de physique, et ensuite des questions plus métaphysiques.
Notamment la différence entre l'âme humaine et celle des bêtes.
Voilà. Alors souvent, moi j'ai fait lire ce texte-là, ce début, à des étudiants scientifiques. Bon, ils sont toujours totalement désarçonnés par ce plan-là, quoi. Qu'est-ce que ça vient faire? Je mélange des considérations de physique, des considérations de métaphysique. Précisément, si nous sommes désarçonnés, à mon avis, c'est parce qu'on ne voit pas tout le chemin qui a été parcouru depuis ce moment-là jusqu'à nos jours. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est le parcourir en sens inverse. Vous avez des choses à dire, des commentaires?
Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de lire le début, peut-être.
Oui, on va lire le début.
Justement, rentrer un petit peu dans le concret.
Eh ben, Nicolas, tu veux nous lire le début?
Si vous voulez. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent? Mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes.
Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, vous qui êtes enseignant, est-ce que vous pensez que c'est sérieux cette histoire du bon sens qui est la chose du monde la mieux partagée?
On ne sait pas, comme souvent... ce que pense exactement Descartes, puisqu'il y a un petit tour ironique dans sa formulation.
Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'ironie. Ça mériterait d'être examiné de plus près. Mais en tout cas, ça nous heurte. Ça nous heurte. Cette phrase-là, elle nous heurte. Très souvent, les gens qui enseignent des matières scientifiques savent qu'il y a des gens qui absorbent les sciences très rapidement, enfin les sciences positives, et d'autres qui sont plus réticents. Et or, là, ce que nous dit Descartes, c'est non, ça n'existe pas. On a tous le même bon sens, et on en est également pourvu. Et à mon avis, on a intérêt, pour bien comprendre le discours de la méthode, à ne pas prendre cette phrase sous le ton de l'ironie.
Peut-être dans le sens...
Prenons-la sérieusement, essayons de faire cet exercice.
Oui. Je pense que il parle vraiment de la capacité commune à tous les êtres humains de comprendre des choses, de comprendre... De voir un problème ou quelque chose qui est exposé, une notion, et de la comprendre, et du coup de pouvoir raisonner dessus.
Certes, mais il y a aussi derrière l'idée que y a un penchant humain à se sentir trop rapidement satisfait, peut-être, de la quantité de bon sens dont on dispose.
Alors ça, ce que tu dis est capital, effectivement. C'est-à-dire que peut-être que le message qui va être donné... C'est nous ne sommes certes pas très différents les uns des autres en question de bon sens. En revanche, pour reprendre l'histoire du cheminement, la façon dont nous conduisons nos idées, elle peut différer.
C'est ça.
Et Descartes va sans doute nous amener à une exposé sur la façon de cheminer et de conduire ses idées.
Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il dit dans la suite. Hein. Il dit bien que les différences d'opinion qu'il peut y avoir...
Alors, peut-être on peut lire exactement. Alors, peut-être tu peux lire in extenso la suite de cette phrase.
Si on reprend la suite, effectivement. Hein. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses.
Voilà.
Donc là, c'est clair. Hein, il dit bien, finalement, ce qui fait qu'on peut avoir parfois des opinions différentes, c'est pas la capacité de raisonnement, c'est la façon dont on oriente, dont on conduit nos pensées, justement.
D'accord.
On peut penser aussi à Socrate, que nous venons de quitter, qui démasquait ceux qui croyaient savoir... tout en étant ignorant.
Alors ça peut être un beau sujet de méditation. Quelle différence entre ce que propose Descartes et ce que propose Socrate? Est-ce que Socrate et Descartes sont sur le même point, à savoir j'examine les choses et je regarde comment je conduis ma raison? Alors Socrate parlait du soin de l'âme, mais évidemment bien conduire sa raison, c'est donc soigner son âme. Ou est-ce qu'il y a un nouveau tournant qui va s'amorcer avec Descartes ? Est-ce que déjà, on peut vous voir poindre quelque chose ?
Oui. Moi, je pense qu'il y a quand même une différence importante hein, avec Descartes, c'est que si on reprend Socrate, Socrate, effectivement, dit clairement qu'il recherche la vérité et qu'il recherche ça pour le bien de son âme, mais au final, il ne donne jamais explicitement de moyens d'arriver à cette vérité. Alors que Descartes, dans toute sa démarche, va essayer au contraire de nous donner une méthode, d'où l'objectif ici, hein, une méthode pour arriver
de façon
à toucher
sûre.
Au plus près et de manière sûre la vérité. Donc la différence essentielle, on pourrait l'avoir là.
Oui, alors on y reviendra, je pense, mais je ne suis pas tout à fait de ton avis, Sylvain, quand tu dis que Socrate ne donnait pas explicitement un moyen de savoir, en fait, pardon, je ne me rappelle plus comment tu as formulé les choses, mais...
D'accéder à la vérité.
Oui, d'accéder à la vérité, oui.
Socrate, en fait, dans la plupart des dialogues hein, socratiques, en fait, s'évertue à montrer à ses interlocuteurs qu'ils savent moins de choses que ce qu'ils pensent savoir.
Oui, oui. Mais justement...
Mais dit que finalement, la sagesse humaine, c'est peu de choses.
Voilà.
Mais il dit toujours, en fait, il faut être cohérent.
Il faut être cohérent.
Il faut être cohérent. Et donc, il remet chacun en face de lui-même pour lui demander. Mmh. Et je crois que c'est ça, si on peut parler d'une méthode socratique, c'est remettre chacun en face de lui-même pour dire, est-ce que mon pauvre vieux, toi, c'est vrai, t'as beaucoup d'argent, t'as beaucoup de doxa, t'as beaucoup de gloire, est-ce que t'es cohérent avec toi-même ? Voilà. Et c'est ça. Donc, il a quand même quelque chose.
Oui.
La dialectique, c'est ça.
La dialectique. J'allais y venir, effectivement. C'est un petit d'ailleurs ce dont on a parlé l'émission précédente. C'est qu'effectivement, la méthode de Socrate, mais qui n'est pas explicitée en tant que méthode, il ne la présente jamais, cette méthode.
Mmh, c'est juste.
C'est Platon
c'est très juste.
Qui
illustre. Ça, c'est extrêmement juste.
Oui, les discours. Enfin,
il la présente un petit peu dans le Gorgias quand il cadre Polos.
Un petit peu, mais c'est quand même.
C'est
quand même survolé. Et au final, effectivement, on peut voir que l'accès à la vérité avec Socrate, c'est plutôt une confrontation des points de vue, justement. Alors que là, c'est. Juste pour terminer, hein, c'est avec Descartes vraiment quelque chose qui, à la limite, qui peut être fait seul. Il n'y a pas de dialectique, justement.
C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. À l'amour rendons les armes, donc un extrait d'Hippolyte et Arici de Rameau, qui est un musicien fort proche de Descartes.
RCF Lorraine-Nancy, votre radio locale.
Alors, on va peut-être reprendre la lecture du discours là où on l'avait arrêté, du premier paragraphe. Qui veut lire, Nicolas, peut-être ?
Oui, si tu veux. Alors... Ainsi, la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin, que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. Voilà.
Alors là aussi, on a quelque chose d'extrêmement cartésien, c'est le rapport au temps, donc ne pas se hâter. Donc toujours Descartes, il dit « je ne suis pas supérieur aux autres hein, », enfin déjà c'est ce qui va suivre, mais en revanche, je procède pas à pas, en m'assurant de chaque pas que je vais faire. D'où ma question. Dans les différents sens du mot « science », est-ce que là, on n'a pas quelque chose qui va différer de tout ce qui a précédé dans l'histoire ?
Tu peux préciser ?
Je vais préciser. Je vais faire un peu plus d'interprétation et vous allez me dire si vous êtes d'accord. J'ai l'impression, en lisant Descartes, en lisant ce passage de Descartes, que ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il n'y a de savoir que dans la mesure où on peut avancer pas à pas et reconstituer chacune des étapes. Autrement dit, il n'y a pas de raccourci.
Ah oui.
Voilà. Mmh. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, Nicolas, quand je te disais « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » chez Rabelais.
C'est la rationalité, en fait.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que chez Rabelais, c'est pas du tout la même chose que chez Descartes.
Oui.
Tu vois ? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est la science au sens le plus large, d'accord ? C'est, y a, peut-être que tu connais, je sais pas moi, la science historique, tu as appris toutes les sciences historiques, et ben, il te faut quand même une conscience, et ainsi de suite, d'accord ? Ce qui va être appelé par science par Descartes, c'est pas ça. C'est quelque chose qui va procéder dans le pas à pas et où chaque fois on va être capable de justifier l'étape qu'on a faite sans jamais quitter le terrain de la certitude. Voilà. Donc je voulais juste dire que quand on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est très différent
oui,
de ce qui va être appelé
de la rationalité de Descartes en fait.
Voilà, c'est exactement de la rationalité
de
l'esprit cartésien, oui, tout à fait. Est-ce que c'est plus clair ou...
Oui.
Là. Non, tu n'es pas tout à fait d'accord.
Disons que les sciences positives font quand même partie de l'ensemble du savoir, y compris celui visé par Rabelais.
Oui,
elles sont incluses,
c'est assez un sous-ensemble.
Est-ce que les sciences politiques peuvent être justement,
voilà.
Comment dire, étudiées et... avec la méthode cartésienne quoi.
Alors ça c'est très intéressant parce que aujourd'hui, l'informatique est une sorte de super science qui s'occupe de toutes les autres sciences, puisque qu'on fasse de la physique, de la biologie, de n'importe quoi, de la sociologie, on a recours à l'informatique. Et tu parles de sciences politiques, à mon avis c'est intéressant parce que, par exemple, quand on veut étudier les sociétés, maintenant on recourt à des statistiques, à l'ordinateur, ainsi de suite. Et on est donc en plein dans Descartes. C'est-à-dire, aujourd'hui, faire des sciences politiques ou des sciences sociales,
C'est
analyser des modèles, des sondages, faire des prédictions.
Ouais, mais là, c'est peut-être une déviation, parce que en fait, ça veut dire qu'on ramène tout à l'analyse de l'information, au traitement de l'information.
Voilà.
Mais est-ce que la science réelle et la vérité, etc., au sens plus proche des Grecs, justement, est-ce que ça se résume à ça ?
Voilà. Alors, vous voyez que dans notre discussion, on est en train de voir que finalement, entre les Grecs et ce nouveau départ qui est donné par Descartes, il induit notre temps. Il induit notre temps où économie, politique, écologie, tout ça, se fait sur le mode de la décision qui est non plus purement politique, à savoir on se donne une façon de vivre, une façon d'habiter la Terre, mais c'est le calcul qui va primer, quoi. Et je pense qu'en lisant ces textes, ce texte du début, on commence à comprendre vraiment le fonctionnement qui, à mon avis, d'abord est occidental et devient ensuite planétaire.
Alors, ceci dit, je précise quand même, il ne faudrait pas faire un faux procès à Descartes. Hein. Descartes, On ne peut pas lui reprocher le fait qu'aujourd'hui on est dans une société peut-être qui est effectivement très matérialiste et très calculatrice. C'est pas tout à fait ça hein, dans l'esprit de la méthode de Descartes, c'est plutôt comment on construit les connaissances, comment on arrive à élargir les connaissances humaines et avoir une méthode la plus fiable possible pour élargir les connaissances.
Mmh.
Et qui est rationnelle, donc qui ne permet pas d'introduire des erreurs, justement.
Oui.
Donc après, bien sûr, du coup, ça implique des choses systématiques. Et après, on arrive à du calcul et des choses comme ça. Mais il faut quand même faire une distinction avec l'aspect calcul dans le terme calculer pour gagner plus ou je ne sais quel genre de choses dans ce style-là et notamment tout ce qui peut être en rapport avec.
Vous voulez qu'on continue à lire un petit peu avant de se quitter ? Oui. Sylvain, tu veux lire pour moi je...
Oui. Pour moi, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun. Même j'ai souvent souhaité d'avoir la pensée aussi prompte ou l'imagination aussi nette et distincte ou la mémoire aussi ample ou aussi présente que quelques autres. Et je ne sache point de qualité que celle-ci, qui serve à la perfection de l'esprit. Car pour la raison ou le sens, d'autant qu'elle est la seule chose qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes, je veux croire qu'elle est tout entière en chacun, et suivre en ceci l'opinion commune des philosophes, qui disent qu'il n'y a du plus et du moins qu'entre les accidents, et non point entre les formes, ou nature des individus d'une même espèce.
Voilà. Alors, on va se quitter sur ce passage qui n'est pas facile. On essaiera peut-être d'en rediscuter la semaine prochaine, le temps que les auditeurs qui ne se sont pas encore procurés le discours de la méthode puissent l'avoir sous les yeux. Alors évidemment, la difficulté de faire une émission de philosophie, c'est que la philosophie passe par des textes centraux, par une méditation des textes, et il est bon de les avoir sous les yeux. Donc on ne peut encore une fois que recommander aux auditeurs de se procurer le discours de la méthode, qui est un texte capital dans l'histoire de la philosophie. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans l'émission Les Neveux de René, Chemin de pensée. Merci, au revoir.